BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Vincent Touraine.
15h30 sur BFM Business, ravi de vous retrouver pour ces 2h30 d'émission BFM Bourse. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h. BFM Bourse, tout ce qu'il faut savoir pour bien investir avec nos meilleurs experts. Dans l'actualité, bien entendu, au sommaire même de cette émission, de cette première demi-heure d'ailleurs, toute l'actualité économique et financière a commencé par la bourse et un CAC 40 qui se reprend aujourd'hui après deux séances très difficiles qui ont vu l'indice parisien perdre 2,7%, suite bien entendu à l'annonce de cette dissolution et la perspective d'une victoire du Rassemblement National lors des prochaines législatives. On reprend 0,9% environ pour le CAC 40, 7862 environ, une hausse d'ailleurs qui est amplifiée par les chiffres de l'inflation américaine. Ça, c'est la deuxième information de ce début d'après-midi. Une inflation américaine au mois de mai qui ralentit plus que prévu et ce qui alimente la perspective d'un assouplissement peut-être un petit peu plus fort de la Fed. C'est le troisième titre, la Fed, qui se réunit ce soir. Alors bien entendu, on n'attend pas de baisse de taux ce soir, mais quel calendrier justement des futures baisses de taux de la Fed, une baisse, deux baisses d'ici à la fin de l'année, compte tenu de cette inflation qui se calme. Voilà donc pour l'effet marquant de ce début d'après-midi sur les marchés. Tout de suite, on va voir justement comment se passe l'ouverture à New York, puisque c'est l'heure de l'ouverture à Wall Street. Étienne Brack est en duplex d'Euronext. John Plassard, comme tous les jours, spécialiste en investissement chez Mirabeau, est avec nous aussi. Bonjour messieurs, merci d'être en notre compagnie, de nous accompagner tout au long de ce début d'émission. Étienne, je commence avec vous. On a vu à la publication des chiffres de l'inflation américaine, les futures américaines se réveiller, et puis les indices européens aussi accélérer leur hausse, puisqu'un rebond avait déjà eu lieu en début de journée. Qu'est-ce que ça donne à l'ouverture ?
Très clairement, il y a eu un avant et après 14h30, que ce soit sur les futurs américains, mais aussi sur l'obligataire. Regardez le 10 ans américain qui se détend d'une façon spectaculaire, puisqu'il perd un peu plus de 12 points de base à l'heure actuelle, 4,28, quand le 2 ans de son côté perd 20 points de base à 4,68. Donc suite à cela, vous avez les indices qui se sont mis à grimper d'une façon spectaculaire, notamment les valeurs de croissance. L'indice Nasdaq surperforme très clairement à l'ouverture avec une hausse de 1,1%, quand le Dow Jones de son côté prend 0,8% et retrouve la barre des 39 000 points, quand le S&P de son côté est en hausse de 0,9% au-delà des 5423 points, avec également des publications rassurantes. Dans un instant, John nous parlera d'Oracle, mais la valeur gagne quand même un peu plus de 10%, donc ça c'est une bonne nouvelle pour l'ensemble du secteur technologique. À noter les cours du pétrole qui, comme hier, continuent de grimper, $83 pour le baril de Brent, c'est une hausse de 1,5%, plus 1,6% pour le WTI à $79, et puis l'euro qui avait baissé en début de semaine à l'issue du scrutin en Europe, se reprend avec le dollar qui est en baisse face à un bon nombre de devises, avec notamment l'euro-dollar qui se retrouve aujourd'hui à 1,0835. C'est une hausse de 0,9%, ce qui est tout de même notable. Et donc Wall Street qui ouvre en hausse, proche de ses records historiques, avec des hausses comprises entre 0,7% pour le Dow Jones et 1,2% pour l'indice Nasdaq, avec donc une inflation américaine qui ressort meilleure qu'attendue.
Et pour ce qui est de Paris, donc pareil, on accélère la hausse. On était déjà en phase de rebond après deux séances de baisse consécutives. Et là, ça va plutôt bien.
En effet, après avoir perdu quasiment 3%, 2,7% pour être précis, en l'espace de deux séances, le CAC 40 reprend 0,8% et retrouve les 7800 points, 7848 points, des volumes qui sont présents comme ces derniers jours, et les valeurs qui ont fortement baissé se reprennent aujourd'hui, à l'image de Vinci ou encore le secteur bancaire qui prend quasiment 2% en milieu de journée.
Merci beaucoup Étienne, vous restez avec nous tout au long, non seulement de cette demi-heure, mais aussi de BFM Bourse. John, donc, que faut-il penser de ces chiffres de l'inflation, cette inflation qui se calme aux États-Unis au mois de mai, et puis en quoi ça peut influencer justement la Fed dans ses futures décisions sur ses taux ?
Écoutez, c'est des très bonnes questions, Vincent, mais je reviens juste aux chiffres. Il faut regarder qu'au niveau mensuel, en mai, eh bien, l'indice des prix à la consommation n'a pas bougé. 0% par rapport au mois précédent. On est au plus bas depuis juillet 2022. Au niveau annuel, on passe de 3,4% à 3,3% en mai. Vous me direz, c'est pas beaucoup, mais c'est au-dessous de ce que pensait le consensus. Si on gratte un peu dans les chiffres, on voit que les services de base ont augmenté de 0,2% sur le mois, avec une hausse de 0,4% pour le logement. D'un autre côté, vous avez les biens de base qui sont restés stables. Donc, ce qui est très intéressant de noter, c'est que ce sont les services hors logement qui se sont modérés ce mois-ci. Et c'est une très bonne nouvelle parce que c'était cette catégorie qui était responsable d'une grande partie de la surprise lors du premier trimestre où on avait eu la hausse des prix. Donc, ça confirme le discours de la Fed comme quoi l'inflation remonterait en début d'année pour après baisser. Et donc, c'est une excellente nouvelle pour la Fed. Il y a juste une chose à savoir, qui est une chose un peu technique, Vincent, c'est que ces chiffres qui ont été publiés à 14h30 étaient déjà à la disposition des membres de la Réserve fédérale américaine hier, donc au début de la réunion de la Fed. Et donc, ce ne sera pas vraiment une surprise pour eux. Ils ne devraient pas changer leur discours depuis les chiffres qui ont été publiés à 14h30. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu directement sur les futurs ? Eh bien, on a une porte ouverte sur une baisse de taux en septembre, mais une baisse de taux en novembre est maintenant anticipée à 100%.
Anticipée à 100%. Baisse de taux. Donc, vous venez de combien de baisses de taux d'ici à la fin de l'année ?
Alors, pour l'instant, c'est un peu plus d'un et demi. Alors, ça ne veut absolument rien dire puisqu'il n'y a pas un demi-point. Mais ce serait septembre et novembre si...
Septembre et novembre, d'accord.
Et ce qui est très intéressant de noter, c'est que je vous rappelle, Vincent, que ce soir, on aura les fameux nuages de points.
Mais voilà, les dot-plots, j'allais vous demander.
Exactement.
Qu'est-ce qu'on cherchera à lire dans ce nuage, justement ?
Bah écoutez, ce qu'il faut voir, c'est que lors de la dernière publication de ces nuages de points, eh bien, on avait des anticipations de 3 baisses de taux cette année. Eh bien, on devrait revenir à 2 baisses de taux. Et donc, ça devrait être tout à fait en ligne avec ce qu'anticipe le consensus actuellement. Et si, la Fed, ce soir, répète une nouvelle fois que les progrès sont faits face à l'inflation, eh bien, le marché devrait voir ça de la manière d'un demi-verre plein, et le marché pourrait continuer à monter, tout comme il le fait actuellement après la publication de ces chiffres de l'inflation.
Voilà, plus on anticipe des baisses de taux de la Fed, plus les marchés actions apprécient, et tout se clarifie assez rapidement, semble-t-il, hein, parce qu'il y a encore quelques semaines, on se disait peut-être qu'il n'y aura pas du tout de baisse des taux d'ici à la fin de l'année aux États-Unis. John, Étienne, une question pour vous concernant Apple.
Apple qui n'en finit plus de grimper, puisqu'après une hausse de quasiment 7% hier, vous avez la valeur qui reprend un peu plus d'1,5%. John, la valeur est tout simplement sur un plus haut historique. Hier, elle a gagné quasiment 200 milliards de valorisation boursière, au point qu'Apple repasse devant Nvidia.
Oui, c'est absolument fou ce qu'on peut dire d'Apple. Vous l'avez dit, nouveau record historique aujourd'hui, nouveau record historique hier. On a un prix par action qui est passé hier au-delà de $200 pour la première fois de l'histoire, si on tient compte des splits. On a la capitalisation boursière qui a bondi hier, tenez-vous bien, de 215 milliards de dollars pour atteindre 3200 milliards de dollars, ce qui la classe parmi les 10 plus fortes hausses quotidiennes de l'histoire. Et vous l'avez dit, eh bien, Apple, plus on monte et plus elle monte plus rapidement que Microsoft, eh bien, Apple a réduit de 50 milliards l'écart entre sa capitalisation et la capitalisation de Microsoft, qui est la plus grande entreprise du monde. Et il se détache maintenant un peu plus d'Nvidia parce qu'il y a un écart de 200 milliards de dollars. Et juste une dernière chose, puisqu'on parle d'Apple, mais aussi d'Nvidia et d'autres valeurs, eh bien, tenez-vous bien, depuis octobre, les fameux 7 magnifiques qu'on avait enterrés, eh bien, ont ajouté, tenez-vous bien, 5 000 milliards de dollars de capitalisation boursière au marché américain. C'est absolument fou et incroyable.
Voilà, ce sont des trilliards là, à ce niveau-là. J-146, John, avant les élections américaines. Et dans le cadre de ces élections américaines, il y a quand même des difficultés qui s'annoncent pour le camp Biden, puisque son fils, hein, Hunter, eh bien, est condamné pour détention illégale d'armes à feu. Quelles conséquences pour la campagne de son papa ?
Alors, d'abord, il faut rappeler que c'est le premier procès d'un enfant de président en exercice. Ça, c'est très important de le noter. On n'en parle pas assez. Il faut aussi rappeler que Hunter Biden, le fils de Joe Biden, risque jusqu'à 25 ans de prison. Ça ne devrait pas être le cas, mais pour 3 chefs d'accusation. Et il faut rappeler une chose ici dont on ne parle pas en Europe, c'est que les Républicains ont toujours bien aimé taper, si je peux dire comme ça, sur le fils de Joe Biden, Hunter Biden, qui était un point d'attaque des Républicains. Il faut savoir qu'un des enfants de Joe Biden est mort d'un cancer il y a quelques années de cela, et c'était une question évidemment très sensible lorsqu'on parle de ces enfants. Il faut rappeler que dans quelques semaines, Trump et Biden vont participer à leur premier débat présidentiel, donc évidemment il faut s'attendre qu'il y ait beaucoup de questions concernant le fils Trump. Et chose très importante aussi, c'est que Hunter Biden doit aussi être jugé pour fraude fiscale fédérale dans une autre affaire en Californie en septembre, 5 jours avant le deuxième débat présidentiel. Alors, les impacts, évidemment, on a l'impression que ce sera mauvais pour Joe Biden, mais tenez-vous bien, Vincent, eh bien, vous avez les politologues américains qui disent que c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour Donald Trump. Pourquoi ? Parce que juste après son procès, vous vous souvenez qu'il avait dit que la justice américaine était corrompue. Et donc, évidemment, avec une condamnation du fils du président en place, eh bien, il ne peut plus tenir cette rhétorique. Et donc, pour l'instant, on verra dans les prochains sondages, mais pour l'instant, eh bien, c'est balle au centre.
Très bien. John, une dernière question qui nous vient d'Étienne pour vous.
En effet, avec Oracle. Mais juste avant, mon cher Vincent, priorité au direct. Rendez-vous compte, Apple, ça y est, devient la première capitalisation mondiale avec un gain de 2,5%, 2253 milliards de dollars contre 2236 pour Microsoft. Voilà, à part tes fêtes sur Apple qui retrouve sa place de leader en bourse. Et oui, mais Oracle, en effet, qui fait également l'actualité aujourd'hui avec là une hausse bien plus importante qu'Apple, puisque Oracle prend un peu plus de 10%. Là, comme pour Apple, c'est l'intelligence artificielle qui fait rêver Wall Street, John.
Oui, bah écoutez, Vincent, ce qui est très drôle, c'est que si vous regardez les résultats, eh bien, ils sont en dessous. Le bénéfice net est en dessous du consensus. Le bénéfice ajusté est en dessous du consensus. Les revenus ont augmenté de 3%, mais c'est en dessous du consensus. Mais, bien évidemment, ce sont les perspectives. Et tenez-vous bien, les perspectives dans l'intelligence artificielle, eh bien, c'est des contrats qui ont été annoncés hier soir avec Google et avec Microsoft. Et donc, Oracle, suite à ça, prévoit que la croissance du chiffre d'affaires du premier trimestre sera de l'ordre de, c'est avec un trimestre décalé, de 5 à 7%. Et puis, le cloud est anticipé en croissance de 21 à 23%. C'est au-dessus de ce qu'on attendait pour les prévisions, mais les résultats en eux-mêmes n'étaient pas très bons.
John Plassard, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce Hello Wall Street, spécialiste en investissement chez Mirabeau. Et Étienne Braque, à tout à l'heure, hein, lors de la prochaine demi-heure. Et puis d'ici à la fin de l'émission, vous nous accompagnez pour nous donner des nouvelles de la Bourse de Paris. On enchaîne avec la Bourse Cash qui reçoit Benoît Peloual. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Vous êtes CIO chez Natixis Wealth Management. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes venu avec une conviction forte, une punchline. Les résultats d'entreprise sont en sursis. Pourquoi est-ce que vous nous dites cela ?
C'est un sujet très important pour les marchés, puisque si on regarde maintenant depuis quelques mois, les deux moteurs principaux à la progression des actifs risqués, qui sont près de plus haut historique, ça a été essentiellement la solidité de la croissance américaine et justement la très grande qualité des résultats d'entreprise. Et c'est vrai que quand on regarde le bilan de la dernière mouture de résultats, ils sont très bons. On a 80% de bonnes surprises aux États-Unis, c'est un peu moins en Europe. Mais effectivement, quand on gratte un peu sous la surface, on s'aperçoit que les choses sont un peu moins claires en réalité.
Alors qu'est-ce qui cloche ?
Déjà, on a une grosse divergence entre les petites et moyennes entreprises qui, elles, sont confrontées à des contractions de leurs bénéfices. Donc ce qui est quand même pas du tout la même histoire que les très grosses entreprises. entreprises. Justement, votre intervenant juste avant mentionnait que les résultats étaient finalement peut-être pas si bons pour les sociétés qui étaient mentionnées. Et je pense qu'effectivement, ça va être particulièrement important à suivre, la qualité des résultats, puisque on entre aussi dans une nouvelle histoire là, puisque depuis maintenant le début de l'année, on s'aperçoit que l'autre moteur, la solidité de la croissance américaine, donne des signes quand même de freinage. On a eu plusieurs statistiques assez décevantes aux États-Unis, et c'est vrai que les données d'enquête qui étaient déjà assez dégradées commencent à être rejointes par ces données en dur. C'est-à-dire qu'on a la déception sur la première estimation du PIB, la consommation qui reste bonne mais qui commence à fléchir, le taux de chômage qui remonte, et les résultats apparaissent assez déconnectés par rapport à cette photo un peu macro. On le voit particulièrement quand on regarde la performance des valeurs cycliques, notamment en bourse, par rapport à cette photo macro, il y a clairement une déconnexion. Nous, ce qui nous interpelle, c'est que en plus, on a des attentes du consensus des analystes qui commencent à être un peu élevées par rapport à ce qu'on voit du côté macro. Si on regarde les chiffres de croissance attendus, pour le S&P, pour l'année 2024, on attend 10% de croissance des profits, on attend 14% pour l'année prochaine. Ça, c'est compatible avec une croissance macro qui reste solidement à 2,5. Or, les économistes, ils attendent quelque chose autour de 2 pour cette année et en dessous de 2 pour l'année prochaine. Et on a à peu près le même constat en Europe. On attend à peu près 6 de croissance des profits, 10 l'année prochaine. Pareil, c'est compatible avec une croissance en Europe à plus de 1,5 et c'est pas vraiment ce qu'anticipent les économistes. Donc attention.
Là, les résultats des entreprises sont en fin de cycle, pourrait-on dire?
Et bien justement, quand on regarde le discours servi par les managements, et c'est particulièrement vrai aux États-Unis.
Les forward guidance.
C'est ça. Et il y avait deux choses qui ressortaient très clairement. C'était les inquiétudes sur la solidité du consommateur, en particulier le consommateur modeste. Et le deuxième paramètre, le deuxième thème qui ressortait, c'était les réductions de coûts. En réalité, quand on regarde quasiment toutes les publications, et en particulier aux États-Unis depuis le début de l'année, elles sont toutes accompagnées de problèmes de réduction de coûts très importants. Et donc ça, c'est vraiment très important, et c'est caractéristique d'un risque de pic de cycle sur les résultats, parce qu'en réalité, on a
des entreprises... Et ce sont quoi ces réductions de coûts?
On réduit les
effectifs. C'est pas juste les stylos, c'est des réductions d'effectifs.
Ce qu'on a vu, on a eu énormément de plans sociaux qui ont été annoncés aux États-Unis. Et donc ça permet quoi? Ça permet effectivement d'avoir des résultats qui sont plutôt bons, mais attention, parce qu'il y a un effet autoréalisateur là-dedans. C'est-à-dire que quand les entreprises se comportent comme si elles étaient quasiment en situation de récession, au bout d'un moment, on la précipite, justement, cette récession. Et il ne faut pas oublier que protéger ces résultats grâce à des réductions de coûts, ensuite, ces gens, on les retrouve dans les chiffres du chômage, ça impacte la consommation et ça impacte ensuite les chiffres d'affaires. Si on regarde le cheminement historique, quasiment toujours, le point bas du taux de chômage a toujours précédé un pic de cycle sur les résultats. Donc c'est effectivement ce qui nous semble important à surveiller, étant donné que ça a été le moteur principal de la performance des marchés d'actifs risqués ces derniers mois.
Ça, c'est le cas américain, plutôt que le cas européen. En Europe, on a plutôt le sentiment que ça s'améliore un petit peu, parce que l'Allemagne est en train de sortir de l'ornière.
Exactement, l'histoire elle est un peu différente en Europe parce que justement d'un point de vue macroéconomique on a une économie qui a tout simplement déjà atterri. En fait on a une croissance à peu près à zéro et on a bon espoir malgré tous les vents contraires qu'on peut avoir que l'activité se stabilise, aille un petit peu mieux et donc l'histoire est effectivement un petit peu différente en zone euro.
Puisque vous êtes là, petit commentaire sur l'inflation américaine, elle ralentit plus que prévu, ça veut dire que la Fed va baisser davantage ses taux d'intérêt. Quel est votre scénario vous?
Baisse
des taux.
Alors le scénario reste inchangé, on est plutôt sur deux baisses d'ici la fin de l'année. C'est vrai que de plus en plus la probabilité s'orientait sur une seule baisse quand on regardait les marchés. Elle revient à deux baisses, avec une première en novembre d'après les marchés suite à ce chiffre. Ce chiffre il est rassurant parce qu'on a vécu plusieurs chiffres d'inflation qui laissaient à penser une inflation beaucoup plus persistante que prévu. Il y a un élément que je noterai tout particulièrement dans ces chiffres, c'est l'inflation cœur service, c'est-à-dire retraité de l'immobilier, en gros l'évolution des prix des biens et des services qui ne sont pas censés bouger en réalité. Elle était sur une trajectoire assez solide de rebond depuis septembre l'année dernière aux États-Unis, ce qui était particulièrement inquiétant pour stabiliser l'inflation à son objectif à long terme. C'est la première fois depuis très longtemps où en mensuel, on a un chiffre négatif sur cette inflation cœur-service. Elle commence effectivement à se retourner. Donc ça, c'est plutôt rassurant sur le processus de désinflation qui montre qu'il n'est pas mort et qu'il est effectivement bien engagé. Maintenant, on entre dans une histoire aussi un petit peu différente, puisque en parallèle de ça, on voit aussi le coût économique de cette politique monétaire et de cette désinflation. C'est qu'en parallèle, on a des chiffres sur la croissance américaine qui sont appelés à freiner. On a une économie qui est en train d'entrer dans sa phase de freinage. Donc ça paraît assez logique que la désinflation reprenne, mais il va falloir surtout surveiller où, à quel moment, à quel niveau va atterrir la croissance américaine parce qu'elle est en train d'entamer son freinage. Et c'est là où toute l'histoire et la différence entre un soft landing ou un hard landing sera importante. importante pour les marchés.
D'accord. Donc ça commence, l'atterrissage a commencé, le freinage a commencé de l'économie américaine. Merci beaucoup Benoît Pellewald d'avoir été avec nous, CIO chez Natixis Wealth Management. Au revoir.
Merci.
BFM Bourse, Culture Bourse.
Culture Bourse qui reçoit nos prochains invités avec Julie Cohen-Heurton. Bonjour Julie, je cherche mes fiches. Hein. Moi, je suis un petit peu nouveau dans la maison.
Parfait, vous êtes parfait.
Mais vous allez me guider, bien entendu. Je compte sur vous. Et nos deux invités, Thibaut François, bonjour.
Bonjour.
Co-fondateur associé de Fastea Capital et Saïd Beldachir. Bonjour.
Bonjour.
Je l'ai mal prononcé. Beldachir, hein, c'est
non,
plutôt
non,
ça.
Bien.
Non, c'était ça. Très bien. Directeur de l'animation des réseaux chez Ophi Invest AM. Julie, je vous laisse la main hein, pour
ces
questions.
En fait,
alors,
Vincent, oui, il y a des... tous les jours, en fait, on reçoit des
tous
questions.
Tous les jours, ouais, mais je suis pas là tous les jours.
On a plein de questions
plusieurs
sur
par jour,
des valeurs. Et figurez-vous que vous le savez désormais, vous pouvez nous écrire. Et donc, vous avez deux options. On le rappelle, vous nous écrivez à l'adresse bfmbourse@bfmbusiness.fr ou bien au QR code qui s'affiche sur votre écran si vous nous regardez à la télévision. Et aujourd'hui, effectivement, eh bien, on a reçu une question à propos d'un mastodonte.
Et ce mastodonte... Laissez-moi deviner.
Ah.
Mastodonte de quoi ? Du pétrole, hein, c'est ça ?
Ah,
Total Energy, ça peut être que ça.
On peut rien vous cacher, effectivement, c'est Total Energy. Et c'est Patrick qui nous a écrit. Il dit qu'il ne possède pas encore de titre Total Energy en portefeuille, mais il aimerait bien en acheter. Et il se demande, eh bien, tout simplement, si c'est dans son intérêt. Est-ce qu'il doit acheter à Paris maintenant ou est-ce qu'il doit attendre la cotation à New York ? Comme vous disiez Vincent, lui, il n'est pas à New York. Il est bien avec nous en chair et en os. C'est donc Thibaut François pour Fastea Capital. Merci d'être avec nous, Thibaut.
Bonjour, Julie.
Alors, Thibaut, peut-être pour commencer, est-ce que finalement, ça change vraiment quelque chose d'un point de vue stratégique, l'éventuelle cotation principale à New York de Total Energy ?
Alors, généralement, les entreprises qui font une double cotation, c'est, on va dire, pour aller chercher autre chose. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'éventuellement, leur valorisation en bourse, alors là, on parle de la Bourse de Paris, est plutôt décevante, donc c'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils mériteraient davantage de valorisation avec des investisseurs de l'extérieur, et ils souhaitent apporter plus de liquidités ou toucher d'autres investisseurs partout dans le monde pour pouvoir coter et pour pouvoir intéresser le maximum d'investisseurs. Donc c'est aussi pour ça que Total s'est intéressé à cette double cotation, c'est-à-dire qu'ils sont cotés en bourse à Paris, mais on sait que en Europe et notamment à Paris, on a des critères ESG qui font que certains pétroliers sont plutôt blacklistés par rapport à des sociétés de gestion. Et donc Total s'est renseigné un petit peu sur la bourse américaine et s'est dit pourquoi pas se coter sur la bourse américaine pour aller toucher des investisseurs qui sont peut-être moins regardants, et c'est le cas aux États-Unis très clairement, notamment sur le secteur pétrolier, qui sont moins regardants d'un point de vue ESG et qui vont essayer d'avoir une valorisation qui sera un peu plus élevée sur la bourse américaine. Et donc, ils ont choisi d'aller chercher, en tout cas de se renseigner, pour avoir cette double cotation entre Paris et les États-Unis.
Alors ça, finalement, c'est pour la stratégie de Total Energy, mais pour la stratégie de Patrick, qu'est-ce qu'il doit faire concrètement du coup avec ce titre ?
Bah, typiquement, Patrick, il est en France. Donc, ça
veut
dire
que le PDG, d'ailleurs.
Ah.
Et oui.
Comment ?
De Total Energy. Il a le même prénom que le PDG.
Exactement. Exactement. Et donc, il est en France. Donc aujourd'hui, on va privilégier plutôt pour un résident français, plutôt une cotation française en euros. La double cotation aux États-Unis, ça veut dire une cotation en dollars, ça veut dire une cotation en Europe. Alors bien sûr, il peut y avoir des différences entre la cotation européenne et américaine, notamment peut-être des dividendes qui vont être différents, peut-être des actions gratuites qui vont être différentes, etc. Donc il faudra regarder un petit peu tout ça. Mais d'un point de vue général, c'est vrai que si on est en France, c'est mieux d'acheter des actions européennes. On n'a pas d'effet de change. On a des frais, je pense aussi, qui seront moins élevés par rapport aux dépositaires, par rapport à ce qu'on peut retrouver sur des actions américaines ou des actions asiatiques, etc. Donc c'est vrai que c'est au quotidien, on va dire, c'est plus facile aujourd'hui pour Patrick d'aller chercher des actions en France plutôt que d'aller chercher des actions aux États-Unis.
Donc a priori, pas la meilleure option, en tout cas pour l'instant. Merci beaucoup Thibaut. Vous restez avec nous. On vous retrouve dans quelques
plaisir.
Minutes pour un
tout au long de l'émission. Hein,
exactement.
La fin de l'émission, d'ailleurs.
C'est la journée de Thibaut François aujourd'hui. Et puis si de votre côté vous avez des questions, eh bien vous continuez à nous écrire et vous pouvez, vous le savez, nous challenger aussi sur les réseaux sociaux de BFM Business. puis on continue.
Je crois qu'on a un petit jingle, mais non. Finalement, il n'y a pas de jingle. Culture Bourse, hein, c'est la réponse aussi de nos experts à vos questions, mais pas que. C'est aussi un moment de pédagogie boursière et financière. On insiste beaucoup là-dessus
avec vous, et vous faites ça
très bien, la pédagogie économique et financière.
Alors, surtout, nos experts, parce qu'il y a quand même une notion qu'on entend tous les jours, dont on parle quotidiennement dans BFM Bourse, mais alors là, on en parle 10 fois plus en ce moment, entre la BCE qui a dégainé la première la semaine dernière et l'instabilité politique qui règne notamment en France. Eh bien, très clairement, ces deux mots qu'on prononce tous les jours et beaucoup de fois, ces deux mots, c'est taux d'intérêt. Mais de quoi on parle ? Comment il fonctionne et quel impact finalement ça peut avoir sur nos finances ? Eh bien, on va tout vous expliquer grâce à Saïd Belbachir pour Ofi Invest AM. Bonjour Saïd, merci d'être avec nous. Alors Saïd, peut-être déjà avant de rentrer dans les détails, est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement ce que sont ces fameux taux d'intérêt et à quoi ils servent ?
Alors très simplement, le taux d'intérêt, en fait, moi j'ai tendance à appeler ça le prix du temps.
Le prix du temps ?
C'est le prix du temps, voilà. C'est lié à la notion de prêt. Quand on prête de l'argent, vous avez une compensation qui s'appelle le taux d'intérêt. Alors cette compensation, elle va être liée principalement à 3 facteurs. Le premier, c'est que, supposons que je vous prête 100 euros aujourd'hui, et on se met d'accord, je les récupère dans un an, je ne vais plus avoir ces 100 euros. Donc je ne vais pas pouvoir les dépenser, je ne vais pas pouvoir les investir. Donc en compensation, je vais avoir un taux d'intérêt qu'on fixera ensemble, ça peut être 5% par exemple. Et le deuxième facteur, c'est la notion d'inflation. Ces 100 euros, quand je les récupère au bout d'un an, ils vont valoir un petit peu moins, il y a de fortes chances, parce que l'inflation aura grignoté. Quelque part, on pourra dire que l'argent a perdu un peu de sa valeur, donc avec ces 100 euros, je pourrais acheter moins de choses dans un an qu'aujourd'hui. Okay ? Et le troisième facteur, c'est la notion de risque. Si je vous prête 100 euros, Julie, il peut se passer plein de choses et vous pouvez ne pas me les rembourser pour plein de raisons.
Ah, je peux les dépenser, oui.
Voilà. Donc c'est le cas si je prête à une personne comme vous, mais je pense que vous me les rembourserez, mais je peux le prêter aussi à une entreprise ou à un État. Et là, il y a la notion de risque, évidemment, de la même manière.
D'accord. Donc ça, c'est pour la mécanique, sauf qu'on entend taux directeur, taux négatif, taux long. Il y en a 36 des taux. Comment on fait pour s'y repérer ? C'est quoi la différence ?
Alors, c'est vrai que ce sont des abus de langage. Prenons l'exemple des taux longs que vous avez cités. Quand on parle des taux longs, en fait, en général, on parle des taux auxquels empruntent les pays sur des durées longues. Je vais vous prendre la référence en France. C'est l'OAT. L'OAT, c'est quoi ? C'est l'obligation.
À 10 ans, le fameux.
Voilà, la fameuse OAT à 10 ans, obligation assimilée au Trésor. Donc, c'est le taux auquel emprunte la France sur 10 ans et il est autour de 3% aujourd'hui. Ça, ce sont les taux longs. Ils sont très regardés par les investisseurs parce qu'ils sont régis par la loi des marchés. Les taux longs de la France peuvent monter si vous n'avez pas assez d'acheteurs. Par exemple, les investisseurs craignent la France pour plein et plein de raisons. Et en ce moment, on en parle beaucoup avec le risque politique. Vous pouvez avoir des taux qui baissent aussi parce que vous avez plein d'investisseurs qui vont acheter de la dette française parce qu'ils croient en la France, etc. Et là, vous avez les taux qui vont baisser.
Et alors, très rapidement, Saïd, quel impact ces évolutions de taux, elles peuvent avoir dans les portefeuilles des investisseurs ou sur l'économie de façon générale ?
Alors, l'impact, il est énorme. Là, l'exemple que je viens de vous donner, c'est quand même le taux auquel emprunte le pays. Donc, si la France commence à emprunter à des taux qui sont très élevés, vous allez avoir quand même tout plein de problèmes. Donc, il vaut mieux que les taux d'intérêt pour les pays soient le plus bas possible. Après, vous avez le taux directeur dont on parle tout le temps de la Banque Centrale Européenne, par exemple, mais la Fed en a un, la Banque Centrale Américaine, toutes les banques centrales ont leur taux directeur. C'est ce qu'on appelle le taux refi. En fait, c'est un peu compliqué. Vous avez 3 taux qui sont régis par les banques centrale. Le taux refi, c'est celui dont on parle dans les médias en général. C'est un taux qui va driver, donc en bon français, qui va donner le là pour les taux auxquels on emprunte pour les crédits immobiliers.
Vous vouliez nous parler de voiture tout à l'heure en référence au taux.
Exactement. Alors on peut prendre l'exemple de la voiture. Les taux directeurs, quand on vous dit que la Banque Centrale Européenne a baissé ses taux directeurs, eh bien, c'est pour favoriser l'économie. Les taux des crédits immobiliers, par exemple, plus vous avez l'argent qui n'est pas cher, et plus vous avez envie de le dépenser, et ça va faire tourner l'économie. Donc l'accélérateur de la voiture, quand on appuie dessus, il descend, donc on descend les taux, la voiture accélère, donc l'économie accélère, et inversement.
Merci beaucoup Saïd Belbachir. Je rappelle que vous êtes directeur commercial des réseaux retail chez Ofi Invest AM.
Et merci à vous, Julie. Julie Cohen, Heurton, on vous retrouve demain à la même heure, bien entendu, pour un nouveau rendez-vous culture bourse. Thibaut François, on vous retrouve dans quelques minutes pour commenter la séance lors de la prochaine demi-heure de cette émission BFM Bourse. Je vous rappelle le CAC 40 donc, qui accélère sa progression. On gagne plus de 1% à présent. On fait une pause et on se retrouve dès 16h pour une nouvelle heure d'émission. A tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.